en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Quel est le rôle du soleil dans le changement climatique? La question vous paraît peu pertinente, elle l'est en revanche pour les scientifiques qui à l'heure actuelle travaillent sur la modélisation et la quantification de l'impact du soleil dans le réchauffement climatique. À ce jour, le soleil connaît des cycles de 11 ans qui peuvent être mis en corrélation avec le réchauffement du climat sur Terre. Mais son rôle réel dans l'évolution de la température de l'atmosphère semble en réalité bien faible. Canal Académie vous propose d'écouter sans plus tarder la communication de Thierry Dudoc de Witt, professeur au laboratoire physique et chimie de l'environnement à l'Université d'Orléans. Cette conférence avait lieu au Bureau des longitudes à l'Institut de France en septembre 2008.
Comme vous le savez, c'est un sujet qui est controversé, polémique à souhait, très médiatisé de plus en plus. Et comme pour tous les sujets qui fâchent, vous savez que quand on s'énerve, on perd très vite le contrôle de la raison. Et dans une démarche scientifique, raison de plus d'être prudent, de ne pas s'emballer, de ne pas partir dans les grands débats, mais d'adhérer le plus possible aux faits, aux résultats dont on dispose. Et vous allez voir que ces résultats-là, sur lesquels beaucoup de gens polémiquent aujourd'hui, ces résultats-là sont le fruit d'un travail de très nombreuses personnes, mais surtout c'est un édifice fragile et qui est en permanence remis en question, comme cela se doit dans toute science. Et je crois que c'est surtout là le message principal que j'aimerais donner à travers cette présentation. Donc vous voyez, vous avez déjà mes deux conclusions. Oui, le soleil agit sur le climat, et par contre, il faut faire attention, il faut être prudent. Alors, je commencerai tout de suite avec un graphe que vous connaissez bien, puisqu'il est issu d'un des rapports de l'IPCC, ou du GIEC, si vous préférez, qui résume les différentes contributions au réchauffement climatique actuel. Enfin, quand je dis actuel, c'est du dernier siècle, à peu près, avec les effets anthropogènes, les gaz à effet de serre, les aérosols. Donc, c'est le forçage radiatif des différentes composantes. Et le Soleil n'est qu'une toute petite barre minuscule, ce qui correspond à un consensus qui est partagé par une très grande majorité de scientifiques, mais pas par tous. Alors, ce qui me paraît plus intéressant, ce n'est pas forcément la valeur. Quand on fait une expérience en physique ou en chimie, c'est important de produire une valeur, mais c'est souvent encore plus important de produire une barre d'erreur. Ce qui est important, c'est la barre d'erreur ici, qui dépasse largement les 100%. Si on parcourt toute la littérature, moi je dirais même que la barre d'erreur pourrait être de cet ordre de grandeur-là, tant il est qu'il y a un désaccord sur la contribution du Soleil, qui pourrait même être négative selon certains. Mais malheureusement, et je pense que ça c'est un des défauts des rapports du GIEC, l'accent n'a pas été mis sur le terme solaire, l'accent a évidemment été mis sur les termes anthropogéniques, surtout les gaz à effet de serre, si bien que je pense et je suis persuadé qu'il y a encore énormément à creuser dans cette île parquée-là. Avant d'aborder le problème, il y a plusieurs questions qu'on va rencontrer. Première question, quels sont les mécanismes physiques? Ils sont nombreux, très nombreux, et ils sont couplés et ils sont non linéaires. Ça veut dire que si on en arrête un, il y en a tout de suite un autre qui prend le relais avec des non-linéarités, et les personnes qui sont intéressées, par exemple, au chaos déterministe, savent à quel point les non-linéarités peuvent déjouer nos réflexes habituels. Deuxième chose, les échelles de temps, ça va de la seconde, typiquement, même moins, jusqu'au milliard d'années, la durée de vie d'une étoile. Et donc, on va devoir travailler sur des échelles de temps très disparates, ce qui n'est pas facile. Troisième point, comment aborder, comment étudier ceci? Alors, quand on dispose de mesures, ça va. Comme vous allez le voir tout à l'heure, dans le meilleur des cas, on ne dispose que de quelques décennies, voire que de quelques siècles de mesures. Donc, on manque de recul. Et dans ce cas-là, faute de ressources, il faut aller creuser, il faut aller chercher d'autres indices indirects, avec tous les problèmes que ça pose en termes d'hypothèses. Alors je reviens juste sur les échelles de temps. Si on pouvait parcourir les échelles de temps depuis la seconde jusqu'à un milliard d'années tout au bout, ça représente en gros 17 ordres de grandeur. Alors suivant qu'on se place à gauche ou à droite, on ne va pas étudier les mêmes phénomènes et on ne va pas se placer dans la même communauté. La communauté qui est tout à gauche, et c'est celle à laquelle j'appartiens et à laquelle appartenaient la plupart des personnes qui travaillaient dans cette étude-là, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la communauté de la météorologie de l'espace. C'est une discipline assez récente qui a pour objectif d'étudier, de comprendre et de prédire les effets sociétaux de l'activité solaire. Ce qui est important, c'est de bien comprendre la dynamique spatio-temporelle extrêmement complexe de cet astre. Et si vous focalisez sur une région, par exemple ici, on a ce qu'on appelle une région active, elle bouge en permanence. Il y a en permanence des mécanismes de reconnexion du champ magnétique qui se produisent, qui vont libérer de l'énergie. Et vous pouvez prendre comme ça n'importe quel pixel de l'image et vous allez voir que ça bouge en permanence. Donc il y a une dynamique extrêmement riche. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui. À l'autre extrême, on trouvera les problèmes d'ordre astrophysique, je dirais, le cycle de vie du Soleil. Donc le Soleil, on sait aujourd'hui qu'il est dans la force de l'âge, environ 4,5 milliards d'années, et qu'il y en reste autant à vivre. Et entre deux, on va trouver en quelque sorte un « no man's land », que j'appellerais entre guillemets la climatologie de l'espace. Donc ce sont tous les effets à plus long terme, et ce sont justement ceux-là qui vont nous intéresser ici. Et paradoxalement, c'est cette zone-là dont on sait le moins, en fait. Résumer tout ceci, ça va être extrêmement difficile, et les mécanismes étant couplés. J'ai choisi de découper les relations entre le Soleil et la Terre en différents mécanismes, sachant que ces mécanismes sont fortement couplés. Donc il y a un caractère arbitraire ici. Alors ces mécanismes, je dirais qu'il y en a en gros 4 ou 5, ça dépend comment on s'y prend. Le premier, le mieux connu et le plus évident pour nous, c'est le rayonnement électromagnétique qui nous provient du Soleil, pas seulement en lumière visible, mais aussi en micro-ondes, ondes radio, rayons X, etc. Et dont la puissance au sommet de l'atmosphère équivaut à peu près 1366 watts par mètre carré. Donc voilà la puissance que la Terre reçoit en permanence du Soleil. Une puissance qui varie très peu et qui a d'ailleurs été appelée constante solaire. Ce terme-là est très important. C'est celui qui va dominer tous les autres, comme vous allez voir tout de suite. Le Soleil n'émet pas seulement les rayonnements, mais aussi des particules. Alors, je vais distinguer particules, je dirais, froides, thermiques. C'est tout ce qui est perturbation interplanétaire. Donc, ça peut être du plasma, ça peut être du gaz neutre aussi. Et là, il y a un ordre de grandeur en ce qui concerne l'énergie qui arrive au niveau de la Terre, moyennée dans l'espace et dans le temps. Ce qui importe, c'est l'ordre de grandeur. Et vous voyez qu'il y a à peu près 7 ordres de grandeur de différence entre le rayonnement et les perturbations. Après cela, il y a les particules de haute énergie, qui sont pour la plupart relativistes ou quasi-relativistes. Il s'agit surtout de protons et d'électrons, qui vont aussi avoir une incidence. Là encore, l'énergie, vous voyez, elle est faible par rapport aux autres termes, mais ce terme n'est pas négligeable. Voilà. Alors, il y a un seul terme qui ne provient pas du Soleil. Enfin, il y en aurait d'autres. Mais le principal terme extrasolaire, c'est ce qu'on appelle les rayons cosmiques ou le rayonnement cosmique, qui sont aussi des particules énergétiques, mais d'origine extrasolaire, provenant de supernovae, etc., avec une contribution en puissance encore plus faible. Et enfin, dans le dernier terme, c'est un peu mon fourre-tout, je suis désolé, il y aurait les effets anthropogènes, étant donné que les gaz à effet de serre vont modifier l'albédo, qui va avoir des répercussions, etc. Il y a le champ magnétique terrestre, qui a une incidence aussi. Et il y a les effets orbitaux. Alors ça, j'ai choisi de ne pas en parler pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on se trouve ici au bureau des longitudes, et donc c'est le lieu par excellence où on aborde, on étudie ces phénomènes-là. Donc il y en a beaucoup qui en savent plus que moi. L'autre raison étant que ces effets orbitaux se produisent à long terme, très long terme, et ils sont relativement bien connus, en tout cas mieux connus que les autres. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que dans le cadre de la théorie de Milankovitch, c'est une des contributions majeures aux épisodes glaciaires. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ces différents termes les uns après les autres, on va essayer de les décortiquer et voir dans quelle mesure on peut apporter des réponses en ce qui concerne l'évolution du climat. Alors pour ça, je vais d'abord commencer avec quelques petits rappels qui seront, je suis désolé, des banalités pour la plupart d'entre vous. Le point le plus important, c'est ce qu'on appelle le cycle solaire. Le Soleil n'est pas un astre calme, tel qu'on l'imagine, n'est pas l'astre parfait tel que les Grecs le souhaitaient il y a longtemps de cela. Le Soleil est parsemé de taches sombres, qu'on appelle les taches solaires, des zones sombres un peu plus froides que la surface du Soleil, qui sont éphémères, qui durent quelques jours, voire quelques semaines. Et bien, ce qu'on sait depuis longtemps, les Chinois le savaient déjà, mais ça a été vraiment mesuré pour la première fois à partir du XVIIe siècle, c'est que ce nombre de taches solaires varie de façon cyclique. Et donc, on obtient ce qu'on appelle, on a défini un nombre de taches solaires qui est représenté ici depuis 1610 jusqu'à aujourd'hui. 1610 date des premières mesures. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a bien une périodicité qui est de l'ordre de 10 à 12 ans, avec une variabilité assez forte. Il y a des minima assez prononcé. Il y a des maxima bien nets aussi. Il y a eu des périodes pendant lesquelles le Soleil était beaucoup plus calme qu'il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, ça reste une énigme, bien qu'il y ait certaines réponses qui se profilent. Mais on voit bien donc que le Soleil est un astre qui varie au cours du temps. Et aujourd'hui, justement, en 2008, eh bien, on se trouve dans le creux de la vague qui est là. Et il semblerait, d'après les observations de la dernière semaine, qu'une première tache solaire annonçant le nouveau cycle, le 24e cycle, est apparue. Ce qui veut dire qu'on est en train de repartir là, mais ça va prendre encore quelques temps. Alors ce cycle solaire, ces taches solaires, ce n'est rien d'autre qu'une signature d'un processus physique qui, lui, est tout à fait différent. C'est le magnétisme. La clé de l'activité solaire, c'est le magnétisme. Celui qui arrive à décrire et à modéliser le magnétisme solaire, celui-là, il détiendra les clés de toute l'activité solaire. Alors ce champ magnétique, il a son origine dans le cœur du Soleil, en quelque sorte, puisque tout part des réactions nucléaires. Mais je ne vais pas du tout en parler ici. Et ce champ magnétique, ensuite, part dans l'espace, dans la couronne en particulier. On ne peut pas le mesurer, mais on peut le représenter à l'aide de différents modèles. Alors ce cycle solaire, est-ce qu'il a une incidence sur le climat? Eh bien la réponse est oui, étant donné que de très nombreux climatologues ont observé une signature du cycle de 11 ans dans des mesures climatologiques, que ce soit température, pression, précipitation, temps de retour des moussons, etc. Il y a eu de très très nombreuses signatures de ce cycle de 11 ans. Ce qui ne veut pas forcément dire que le Soleil soit la seule cause, mais ça montre quand même qu'il y a un lien de cause à effet qui est quasiment certain. Alors, il faut faire attention, corrélation n'implique pas causalité. Et des corrélations, vous allez en trouver absolument partout. Voici un exemple, l'échelle du bas, c'est les années qui vont de 1925 à 1937. Et là, vous avez l'évolution de la production automobile aux États-Unis, industrielle et industrie du bâtiment, en fonction du nombre de tâches solaires. Et vous voyez que la crise économique des années 30 coïncide avec un minimum dans le nombre de tâches solaires. Et peut-être que c'est une coïncidence aussi qu'actuellement, l'effondrement du marché coïncide avec un minimum au niveau du nombre de tâches solaires. Toujours est-il qu'il faut être extrêmement prudent dans ce genre d'interprétation. Voilà. Alors, venons-en au mécanisme. Maintenant, on va commencer à décortiquer tout ceci. Je vais donc commencer avec le plus important, le mieux connu, le plus évident, puisqu'il s'agit du rayonnement solaire, celui que nous voyons tous les jours. Ces rayonnements, pendant longtemps, on a tellement cru qu'il était constant que dans la littérature aujourd'hui, on l'appelle encore la constante solaire, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de raison pour que ça reste constant. Mais ça montre bien à quel point la puissance rayonnée par le Soleil a été longtemps considérée comme étant une constante fondamentale pour les astronomes. Alors cette puissance rayonnée par le Soleil, on va le retrouver au niveau du bilan énergétique de l'atmosphère. Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout climatologue, donc je ne vais pas vous détailler ceci. Ce qui m'intéresse, c'est juste de voir que la puissance rayonnée par le Soleil arrive ici. Évidemment, vous savez qu'il y a une partie qui réfléchit par les nuages, par le sol, etc. Et si vous faites le bilan de ce qui sort et de ce qui rentre, vous allez trouver un bilan nul, ce qui correspond à un équilibre énergétique. Alors cette puissance, on l'appelle l'irradiance totale dans la littérature, ou TSI pour Total Solar Radiance. Cette puissance totale, ce n'est rien d'autre donc que la puissance rayonnée par le Soleil sur toutes les longueurs d'onde, sur le spectre entier, depuis les rayons X et gamma jusqu'aux ondes radio. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette puissance-là, on ne peut pas la mesurer au niveau du sol, puisqu'une partie va être absorbée par l'atmosphère. Donc, il faut se placer dans l'espace. Et il a fallu attendre l'âge spatial pour avoir les premières mesures, c'est-à-dire il y a 30 ans, tout juste. Et aujourd'hui encore, il y a plusieurs instruments qui le mesurent, et ces instruments sont en partie en désaccord entre eux. Donc, c'est une mesure qui reste délicate et qui reste sujette à caution. Aujourd'hui, il y a trois versions qui circulent sur le marché, ou plutôt dans la communauté, je dirais. Il y a une courbe que je dirais suisse, PMOD, l'Institut de recherche sur le rayonnement à Davos, une courbe produite par les Américains et une courbe produite par l'Observatoire royal de Belgique. La chose la plus importante, c'est quoi? Alors, c'est d'abord que vous voyez qu'il y a une variation qui est périodique. Et au bonheur, cette variation est parfaitement en phase avec le cycle solaire. Donc ça veut dire que la constante solaire n'existe plus. L'irradiance totale est bien une quantité qui varie au cours du temps. Alors maintenant, si vous regardez l'ordre de grandeur, ici vous avez 1 watt par mètre carré, c'est-à-dire que ceci représente même pas 1 pour 1000. Autrement dit, la puissance totale rayonnée par le soleil, crête à crête, est de l'ordre de 1 pour 1000, ce qui est extrêmement faible. Ça, c'est la première chose, la première conclusion. La deuxième conclusion intéressante, c'est le désaccord qu'il y a entre ces différentes courbes. Alors, le cycle solaire, je vous ai dit jusqu'à maintenant que c'est un cycle de 11 ans. En réalité, c'est un cycle de 22 ans, puisqu'il fait intervenir un changement de polarité du champ magnétique. Donc, si on veut regarder, si on veut détecter une éventuelle dérive ou variation à long terme, il faudrait voir ce qui se passe entre deux cycles solaires. Alors, ceci représente 11 ans, ceci représente 11 ans. Donc, pour voir une éventuelle dérive, il faudrait concorder le minimum ici avec le minimum qui est là et voir ce qui se passe. Alors, si vous faites ça, suivant que vous croyez, que vous faites confiance aux Belges, aux Suisses, aux Américains, vous allez avoir trois versions différentes. Alors, que les niveaux absolus soient légèrement différents, ce n'est pas grave, à la limite, ça nous est égal. Mais que les pentes soient si différentes, voilà quelque chose qui est beaucoup plus inquiétant. Et vous voyez tout de suite, suivant qu'on croit dans les données belges, on va dire, ben voilà, il y a un regain d'activité à long terme, alors que les données suisses plaident plutôt pour le contraire. Donc voilà aujourd'hui ce qui est au cœur d'un débat assez féroce de la communauté, un débat qui au départ est parti de données et qui aujourd'hui tend à devenir idéologique, c'est-à-dire qu'on croit en quelque chose et ensuite on va trouver les arguments pour justifier pourquoi on y croit. Et ça, évidemment, ça va à l'encontre de la démarche scientifique habituelle. Pour résumer, la question de l'irradiance. Première chose, l'irradiance, elle varie, mais sa variation est trop faible. Il faudrait un facteur 2 à 3 environ pour expliquer les changements de température qu'on observe dans les données climatologiques. D'où vient ce facteur? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui pourraient l'expliquer? Certes, sûrement, mais on ne les connaît pas encore. Et là, il y a matière à recherche. Deuxième chose, il n'y a pas de consensus actuellement sur l'existence ou non d'une tendance, puisqu'on a vu qu'il y a des tendances à la baisse, des tendances à la hausse, et c'est très difficile de dire en qui on croit, sauf si on a des bonnes raisons pour le faire. Troisième chose, et peut-être la plus importante, 30 ans de données, ça ne nous donne pas assez de recul pour extrapoler sur plusieurs siècles. C'est comme si vous voulez, c'est comme si j'observais un être humain pendant quelques semaines et qu'à partir de ça, je chercherais à extrapoler quelle sera sa taille dans 40 ans. Il y a un problème fondamental qui se pose ici. Alors pour répondre à ceci, eh bien, il faut remonter dans le passé. Alors comment remonter dans le passé quand on n'a pas de données? Eh bien, on va aller à la pêche. On va essayer de trouver des mesures indirectes. Alors parmi les indices qui permettent de remonter dans le passé, il y a évidemment le nombre de taches solaires. Et vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on est reconnaissant que des astronomes aient pris le temps de faire ces mesures depuis 1610 jusqu'à aujourd'hui, sans ces données-là, il y a beaucoup de résultats qui tomberaient à l'eau. Donc c'est juste pour souligner l'importance des mesures historiques qui doivent être poursuivies, évidemment, même si au moment même, on n'est pas forcément conscient de leur utilité. Donc il y a le nombre de taches solaires qui nous permettent de remonter grosso modo jusqu'à 1610, voire un peu avant. Il y a des images qui se trouvent dans les archives des observatoires, que ce soit à Meudon ou ailleurs, du soleil prises en différentes longueurs d'onde. Alors on commence à les numériser et on se rend compte que ces images-là ne doivent pas être jetées et qu'elles sont précieuses. Il y a les fluctuations du champ magnétique. Paradoxalement, l'activité solaire a un effet clair et net sur les variations du champ magnétique via des mécanismes très indirects, mais ça n'empêche pas qu'on peut remonter à des données, à des informations sur le champ magnétique solaire. Il y a les isotopes cosmogéniques, j'en toucherai un mot un peu plus tard, qui nous permettent de remonter beaucoup plus loin. Là, c'est carrément au niveau des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et finalement, il y a deux éléments qui sont très importants, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le premier, c'est la comparaison avec les autres étoiles. On va observer d'autres étoiles qui ont aussi des cycles d'activité et des périodes de repos. Et en faisant ces comparaisons, on peut croiser les informations et se dire, bah, tiens, si le Soleil se comportait comme ça, il se pourrait bien que, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important parce que c'est une interaction avec une autre communauté. Et enfin, il y a les modèles. Sans simulation numérique, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas montrer. Voilà. Tout ceci, voilà un beau château de cartes avec plein d'hypothèses. Et évidemment, S'il y a des hypothèses qui ne sont pas vérifiées, il y a toute une partie du château de cartes qui s'effondre, d'où prudence, prudence. Est-ce que le rayonnement solaire permettrait d'expliquer la courbe bleue que j'ai ici, c'est-à-dire la hausse de la température qui est particulièrement évidente à la fin du XXe siècle? Alors la réponse, c'est oui. Si on prend des modèles et qu'on injecte l'irradiance solaire, ainsi que d'autres effets comme le volcanisme qui va produire les aérosols, etc., on arrive plus ou moins à expliquer la courbe bleue à partir d'une des courbes qui se trouve de la zone rouge. Donc on pourrait expliquer ceci avec cependant des facteurs d'amplification qui sont bien plus importants que ceux qu'on connaît actuellement. Et donc, reste à trouver le mécanisme. Par contre, une chose qui me paraît importante, c'est que si vous reprenez les mêmes modèles et que vous les extrapolez, enfin, vous les faites fonctionner jusqu'à aujourd'hui, à partir du milieu du XXe siècle à peu près, ces mêmes modèles n'arrivent plus à expliquer la hausse de la température qui devient particulièrement prononcée ici. Alors évidemment, on peut jouer sur les paramètres, on peut modifier les choses, on peut arriver à revenir à une réponse affirmative. Cependant, il est clair que l'effet solaire tel qu'il s'est produit jusqu'à la fin du XIXe siècle n'est plus le même que l'effet qu'on voit aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, évidemment, un des meilleurs candidats, ce sont les gaz à effet de serre. En fait, moi, je vous ai conduit dans tout ceci. Il y a un problème majeur dans ce que je vous ai présenté ici, parce que tout ce que je vous ai présenté est en fait extrêmement réducteur, étant donné que lorsque j'ai parlé du Soleil, j'ai parlé uniquement en termes de puissance totale rayonnée, ce qu'on appelle l'irradiance totale. Or, le Soleil va rayonner pas seulement en lumière visible, mais aussi en ultraviolet, en infrarouge, en micro-ondes, etc. Et toutes ces composantes, toutes ces contributions vont avoir des impacts différents, avec des puissances différentes, et on peut donc pas résumer en un seul paramètre toute une somme d'effets, de mécanismes qui ont des conséquences différentes. Donc il faut quand même aborder la question du spectre solaire. Alors là encore, je pense que c'est quelque chose qui est connu pour beaucoup d'entre vous. La puissance rayonnée par le Soleil par unité de mètre carré par longueur d'onde, en fonction des longueurs d'onde qui vont de 100 nanomètres à 100 000 nanomètres. Voilà. Alors la partie visible et infrarouge du spectre arrive jusqu'au sol, où elle est absorbée, elle va produire un échauffement direct. Donc elle est absorbée par les nuages, par les mers, les océans, par la vapeur d'eau contenue dans l'air, etc. Donc là, les mécanismes principaux sont les mécanismes de chauffage direct qu'on connaît bien, qui sont, je dirais, relativement simples. Par contre, dans l'ultraviolet, l'absorption se produit à plus haute altitude. Alors suivant qu'on a des petites longueurs d'onde de l'ordre de 100 nanomètres, ou plutôt l'ultraviolet proche de l'ordre de 300 nanomètres, l'absorption se fera plutôt à basse altitude ou à haute altitude. À basse altitude, les mécanismes principaux, eh bien, c'est la production d'ozone et tous les mécanismes de photolyse, donc de dissociation de molécules par la lumière, qui vont modifier la physico-chimie, qui vont provoquer un échauffement et qui vont modifier les conditions du milieu. Pour ce qui est de l'ultraviolet extrême, où le flux est beaucoup plus faible, donc il y a beaucoup moins de puissance injectée ici, on retrouve les mêmes mécanismes avec une ionisation qui est beaucoup plus forte, puisque cet ultraviolet-là est en grande partie responsable de la formation de l'ionosphère. Et là encore, des mécanismes qui vont à terme provoquer un échauffement. Alors ces mécanismes-là sont bien connus. Et voici un graphe qui représente toujours une coupe verticale, sauf que là on part de zéro et on va jusqu'à 500 km d'altitude. Et ce que vous avez là, c'est un profil de température, avec les différentes inversions qu'on connaît bien au niveau de la tropopause, etc., et un fort réchauffement dès qu'on arrive dans la thermosphère, ce qui définit la thermosphère. Et vous avez deux courbes importantes ici, la rouge et la bleue, qui correspondent à la température moyenne en période de forte activité, c'est-à-dire ce qu'il y aura d'ici à peu près 5 ou 6 ans, et en période de faible activité, typiquement un jour comme aujourd'hui. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'entre les deux, il y a un écart de température qui est de l'ordre de plusieurs centaines de degrés, qui est bien connu, mais qui a une incidence directe sur les conditions du milieu. Par exemple, l'air sera plus ou moins dense, les satellites vont être plus ou moins fortement freinés, et ainsi de suite. Mais cet écart s'amenuise très vite, et dès qu'on arrive au niveau de à peu près la haute mésosphère, ça disparaît quasiment. Autrement dit, l'effet est surtout prononcé à haute altitude, mais pas ici. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est comment ce qui se passe ici peut avoir une incidence sur nous au niveau du sol. Ça, c'est la grande question. Je reviens au spectre. Tout ce qui est visible et infrarouge proche, ça représente une majeure partie de la puissance reçue, mais ça varie très peu. Alors que ce qui est à gauche représente une très faible partie de la puissance, quelques pourcents, ça dépend où on met la barre. En revanche, la variabilité est beaucoup plus forte. Et donc la question surgit tout de suite, l'UV ne serait-il pas un levier en quelque sorte dans tous ces processus? Voilà, donc pour résumer la partie spectrale, ce qu'on peut dire, c'est que la partie visible et infrarouge du spectre solaire varie, mais pas assez pour expliquer les changements de température observés. Par contre, la composante ultraviolette varie beaucoup plus et pourrait donc apporter une explication via des mécanismes qui restent à élucider. Alors, quels sont ces mécanismes? Eh bien, ce qu'on cherche aujourd'hui, ou plutôt ce que les climatologues cherchent, c'est des mécanismes qui permettraient d'expliquer comment ce qui se passe à 60, 40, 100 km d'altitude peut avoir une incidence jusqu'au niveau du sol. Et c'est un gros problème, étant donné que les différentes couches sont relativement étanches. Non seulement les couches sont étanches, mais les communautés sont relativement étanches aussi, les communautés scientifiques. Alors, parmi les mécanismes qui sont proposés, mais il y en a d'autres, l'un des mécanismes serait, par exemple, une modulation du taux d'ozone, puisque l'ozone est créé en grande partie par l'UV. Et suivant la concentration d'ozone, on aurait une modification du bilan radiatif, puisqu'une partie de la puissance serait absorbée dans la couche d'ozone. Un autre mécanisme qui est évident, c'est que l'UV va provoquer des réactions chimiques avec un échauffement. Ça va faire apparaître des gradients. Et ces gradients vont perturber la propagation de ce qu'on appelle les ondes planétaires. Ce sont des perturbations de très grande longueur d'onde qui se produisent au niveau du globe et qui ont un impact certain sur la circulation générale. Voilà, donc ça fait partie des pistes qui sont étudiées aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Pour vous expliquer, pour vous faire comprendre la complexité de tout ceci, c'est que si on veut essayer de comprendre ceci à partir de mesures, c'est très difficile, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la couche entre 40 et 200 km d'altitude, on ne peut pas la sonder ni à l'aide de ballons, ni à l'aide de satellites. Donc, on manque de données in situ. Ce qui veut dire qu'il faut recourir à des modèles. Et aujourd'hui, les climatologues utilisent ce qu'on appelle les GCM, des modèles de circulation générale, où vous mettez tous les ingrédients possibles de mécanismes physiques et chimiques. C'est des modèles complexes, où vous avez donc découper la Terre en petites cellules, à la fois dans l'horizontale et dans le vertical. Le problème, c'est que la plupart des climatologues s'intéressent à la troposphère. Et donc, parmi ces modèles, il y en a très peu qui intègrent correctement les conditions limites. Et c'est normal, parce que pour ça, il faudrait étendre le maillage vers des hautes altitudes. Et parmi les modèles qui le font d'une certaine façon, quand les gens essayent de modéliser l'impact du rayonnement ultraviolet, l'accord qu'ils trouvent avec les quelques observations reste généralement très moyen. Donc on voit qu'il y a un problème aujourd'hui. On sent qu'il y a des mécanismes physiques qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, mais on n'a pas encore vraiment mis la main dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'un des gros problèmes, c'est avant tout un problème humain. C'est que dans la mesure où on découpe la Terre en différentes couches, eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les communautés scientifiques aussi. Et elles collaborent relativement peu entre elles. Et donc, aujourd'hui, la Terre est entourée de pelures d'oignons. Et c'est ces différentes peaux d'oignons qui sont quasiment étanches d'une peau à l'autre et qui, aujourd'hui, freinent la progression dans ce problème. Le deuxième mécanisme dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle les perturbations interplanétaires. C'est le vent solaire, c'est tout ce qui sort du Soleil en termes de particules. Et je vous rappelle une chose importante, la puissance contribuée au niveau de la Terre par unité de surface est extrêmement faible. Donc là, on a en effet un mécanisme qui est environ 7 ordres de grandeur en dessous des autres du rayonnement et qui néanmoins doit être pris en compte. Pour commencer, une petite banalité, mais qui est quand même impressionnante, c'est que le Soleil perd chaque seconde 1 million de tonnes de matière. Ce sont des protons, des électrons, c'est l'hydrogène en grande partie. Et c'est ça qui vient constituer le vent solaire, qu'on peut difficilement voir, sauf pendant des éclipses. Alors, il y a une personne dans la salle, Serge Kouchmi, qui pourra vous en dire beaucoup plus que moi. Une des autres façons de visualiser le vent solaire, c'est d'occulter le soleil avec un instrument. C'est ce qu'on fait avec un coronographe. Donc là, vous avez une image du soleil avec des couleurs de synthèse Le soleil serait ici, mais il est occulté par un disque. Alors ce vent solaire se propage dans toutes les directions, et les perturbations de ce vent vont évidemment avoir une incidence sur notre environnement terrestre. À savoir, quand ces perturbations arrivent au niveau de la Terre, elles vont rencontrer le champ magnétique terrestre. Le soleil a lui aussi son champ, mais le champ terrestre joue un rôle clé ici. Donc ces perturbations, comme elles sont constituées de gaz ionisés, vont avoir tendance à contourner le champ magnétique terrestre. Ceci dit, les variations de pression vont avoir un effet de compression sur la magnétosphère. Alors la magnétosphère, c'est quoi ? C'est la cavité qui marque la frontière entre le vent solaire et le champ terrestre. Et donc cette cavité-là va être compressée. Et quand elle est compressée, ça va déclencher toutes sortes de mécanismes à l'intérieur de l'environnement terrestre qui vont avoir des répercussions jusqu'au niveau du sol, étant donné qu'on va avoir des courants induits dans le sol. Et ce que vous noterez bien, c'est que lorsque la densité varie, la cavité se déforme, se tord, et ainsi de suite. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle n'est jamais stable. Et donc on parle ici d'équilibre dynamique. Ça me paraît particulièrement important. En physique, on apprend toujours des mécanismes statiques. Quand on parle de thermodynamique, par exemple, la thermodynamique, en réalité, c'est la thermostatique pure qu'on apprend. Eh bien, ici, on a affaire à un équilibre qui est vraiment dynamique et qui est en permanence remis en question par les conditions du vent solaire. Alors, ces perturbations-là vont modifier le champ magnétique. Changement du champ magnétique signifie courant induit. Et donc, on va avoir une cascade de mécanismes qui vont produire ce qu'on appelle les orages magnétiques, avec des perturbations du champ magnétique qui peuvent quand même atteindre plusieurs pourcents par rapport au champ terrestre. L'ionosphère va être réchauffée, elle va se dilater, il y a des satellites qui vont perdre de l'altitude. Enfin, il y a plein d'effets à court terme. Ce champ, il fluctue en permanence, ça c'est bien connu, en fonction des conditions ionosphériques. Et puis tout à coup, il y a un gros pic négatif dû à un orage géomagnétique et qui met ensuite plusieurs jours à récupérer. Voilà, donc c'est des événements extrêmement intenses, sporadiques. Mais ce qui est important, c'est la fréquence de ces événements. Alors un tel orage va avoir... On va voir maintenant comment ça va agir sur le climat, enfin comment ça pourrait agir sur le climat. Ces orages vont avoir une incidence sur ce qu'on appelle les ceintures de radiation. Alors, ceci est une façon très imagée de représenter le champ magnétique à proximité de la Terre. Dans ce champ magnétique, des particules peuvent rester piégées. On obtient ce qu'on appelle un miroir magnétique, une bouteille magnétique. Et ces particules vont subir un mouvement de va-et-vient, de rebond. Plus elles ont d'énergie, plus elles vont rebondir loin, donc plus elles vont descendre bas dans l'atmosphère. Et bien ces particules de haute énergie, des protons, des électrons qui font plusieurs mégaélectronvolts, dizaines de mégaélectronvolts, voire plus, et bien ces particules, leur quantité augmente considérablement quand il y a des orages magnétiques. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que vous imaginez tout de suite, c'est que si on en a beaucoup et si elles ont suffisamment d'énergie, elles vont pouvoir se précipiter dans la haute atmosphère et là, provoquer des réactions chimiques avec tout ce qui vient avec. Toutes ces perturbations, le problème, c'est qu'elles sont liées. Autrement dit, si dans la liste des mécanismes que je viens de vous présenter, vous essayez d'en extraire un seul, il y a tout le reste qui vient avec. Autrement dit, c'est très difficile de faire la part des choses. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir qui est responsable de quoi exactement, puisque tout est lié. Ce qu'on sait, c'est que ces mécanismes sont de courte durée. Par contre, leur fréquence est modulée par l'activité solaire. Et donc, il se pourrait fort bien qu'elles aient un impact. Ceci dit, la majorité des gens pensent que l'impact sera faible pour une raison simple, c'est que ça se produit à haute altitude, très haute altitude, et qu'on n'arrive pas à expliquer comment, par exemple, la production de NOY à cette altitude-là peut avoir une incidence directe sur ce qui se passerait beaucoup plus bas dans la stratosphère, voire dans la troposphère. Mais la question reste ouverte. On arrive au dernier candidat, qui n'est pas le plus simple et qui est probablement le plus controversé aussi. Donc je garde la controverse pour la fin. Ici, il sera question de particules de très haute énergie. Mégaélectronvolts, téraélectronvolts, gigaélectronvolts, voilà les ordres de grandeur. Ces particules proviennent soit du Soleil, soit sont d'origine extrasolaire, avec des flux, avec une variabilité très, très différente. Donc, c'est les mêmes particules, mais leur variabilité, leur évolution, leur dynamique n'est pas du tout la même. Parlons d'abord du Soleil. Lorsque le soleil est calme, il n'émet pas de particules de haute énergie, ou très peu. En revanche, lorsque le soleil est actif, dynamique, il va avoir en permanence des éruptions à sa surface, et chacune de ces éruptions va accélérer dans l'espace des quantités plus ou moins importantes de particules. Ça dépend beaucoup d'une éruption à l'autre. Ces particules, il s'agit de protons, d'électrons d'abord, mais de protons aussi, qui peuvent provoquer de gros dégâts au niveau des satellites. Donc c'est un des gros problèmes actuellement pour les gens, pour les opérateurs de satellites. Ces particules vont avoir tendance à suivre les lignes de champ magnétique, les lignes de champ magnétique qui sont représentées ici par les lignes en blanc. Ce qui veut dire que lorsque la Terre se trouve, on dit, connectée au Soleil, lorsqu'il y a une ligne de champ magnétique qui relie le Soleil à la Terre, eh bien la Terre va recevoir de plein fouet une dose de ces particules-là qui mettent à peu près une heure pour nous atteindre après qu'elles soient émises par le Soleil. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Là encore, heureusement pour nous, nous avons un blindage qui est dû au champ magnétique terrestre. Et en raison de ce blindage, une grande partie des particules vont simplement contourner la magnétosphère et ne jamais nous atteindre. Donc la majeure partie des particules vont passer directement outre. Ceci dit, elles vont quand même avoir une incidence sur la queue et peuvent agir comme ça indirectement sur nous. Une petite partie de ces particules va pouvoir pénétrer directement à travers cet orifice qu'on appelle le cornet. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces particules-là vont se précipiter dans la haute atmosphère, mais uniquement dans les régions polaires. Donc on sait déjà que s'il y a un mécanisme lié à ceci, ce n'est pas à l'équateur qu'on va l'observer, c'est uniquement à haute latitude. Alors ces effets-là, ils sont bien connus. Par exemple, les transmissions radio, on sait que quand il y a un événement à protons du Soleil, eh bien, les communications radio sont perturbées dans les régions polaires, ce qui peut poser d'ailleurs de gros problèmes pour la navigation aérienne. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'un tel événement se produit, ceci va modifier la composition chimique, la température, les conditions lumineuses, toujours à haute altitude. Là, vous avez, en fonction de l'altitude, la densité par centimètre cube de... Alors, je ne sais plus ce que c'était. Ah, c'était du NO ici. Avant et après un événement à proton. Et ce que vous voyez, c'est que la densité varie à peu près de 1 à 2 ordres de grandeur. Et c'est clair que donc il y a un effet qui est assez marqué. Mais encore une fois, cet effet se produit surtout à haute altitude. Et il est très difficile d'imaginer comment ceci peut avoir un impact fort sur les couches inférieures. Voilà. Donc si vous voulez dresser un bilan de tout ceci, je dirais que ces particules ont un impact, certes, mais cet impact est probablement faible. D'une part, parce que les événements sont très sporadiques, alors ils sont modulés aux fonctions d'activité solaire, mais ils n'en provoquent pas assez, et que l'effet se produit trop. Alors, il faut savoir qu'à très haute altitude, entre le jour et la nuit, il y a une modification considérable des conditions du milieu, simplement dû au fait que le soleil illumine ou n'illumine pas le milieu. Ce qui veut dire qu'entre le jour et la nuit, c'est comme si on remettait à zéro les conditions du milieu et on repartait. Et donc, en l'espace de 24 heures, tout est remis à zéro. Il reste le dernier mécanisme, ce qu'on appelle les rayons cosmiques ou le rayonnement cosmique. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des particules exactement de la même espèce, il n'y a pas de différence. Mais ces particules ne sont pas d'origine solaire. Elles proviennent d'autres étoiles ou plutôt d'événements cataclysmiques comme des collisions d'étoiles ou des supernovae où elles sont accélérées par des ondes de choc. Et c'est des particules qui ont des énergies donc considérables et qui peuvent pénétrer bien plus profondément à l'intérieur du bouclier magnétique terrestre. En fait, elles peuvent arriver n'importe où, à n'importe quelle latitude. Ceci dit, on les voit davantage à haute latitude qu'à basse latitude, où le bouclier magnétique est plus important. Lorsqu'un rayon cosmique, lorsqu'une particule arrive, cette particule est ionisée, c'est un électron ou c'est un proton, donc elle va suivre les lignes de champ magnétique, pour autant que ces lignes de champ magnétique ne soient pas trop tordues. Alors, quand le soleil est calme, comme c'est le cas aujourd'hui, le champ magnétique solaire est relativement moins fort, moins turbulent, et ce qui veut dire que la particule pourra suivre une trajectoire relativement, je dirais, rectiligne, et puis traverser l'héliosphère, et puis même atteindre la Terre sans trop de problème. En revanche, lorsque le soleil est actif, le champ magnétique sera généralement plus intense, et il sera surtout plus turbulent. Et donc, il y aura une diffusion plus forte, ce qui veut dire que ces particules de très haute énergie vont suivre un chemin qui sera beaucoup plus tordu. Et donc, le flux qu'on va recevoir au niveau de la Terre sera réduit d'autant. Alors, ceci est bien connu. Et là, on dispose de données qui remontent jusque dans les années 50. Ce qui est représenté ici, c'est le nombre de taches solaires, toujours le bon vieux nombre de taches solaires, depuis 1953. Et puis en bleu, le flux de rayons cosmiques mesuré par une station qui se trouve dans le Colorado. Alors, ce qui est représenté, c'est plutôt la variation relative du flux. Et ce qui saute tout de suite à l'œil, c'est qu'en période de forte activité solaire, le flux chute de 10 à 20%, récupère, chute, récupère, et ainsi de suite. Et donc nous nous trouvons actuellement ici où le flux est maximum. Donc le flux qui arrive au niveau de l'héliosphère est relativement constant. Par contre, ce qui change, c'est ce qui arrive au niveau de la Terre et qui est directement modulé par l'activité solaire. Suivant un mécanisme très simple, soleil actif, champ magnétique plus intense et plus turbulent, et donc un flux réduit. Alors ceci a des conséquences intéressantes pour différentes raisons. D'abord pour le climat, mais aussi pour les questions du diagnostic. Je vais d'abord commencer par le diagnostic. Ces rayons cosmiques, quand ils arrivent dans la haute atmosphère, vont entrer en collision avec les particules qui se trouvent sur leur chemin et provoquer des réactions nucléaires avec des gerbes de particules considérables et provoquer donc différents éléments, dont des isotopes radioactifs qui vont ensuite disparaître naturellement. Un de ces isotopes bien connus, c'est le carbone 14, mais il y en a d'autres, le barium-10, le chlore-36 et ainsi de suite. Donc ces particules sont produites, ces isotopes sont produits en permanence par le flux cosmique et ensuite ils vont disparaître en fonction de leur temps de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que le taux de production de ces particules est donc anticorrélé avec l'activité solaire. Et dans la mesure où on est capable de déterminer la concentration dans ces différents isotopes, on peut remonter à l'activité solaire et avoir ainsi un indice d'activité solaire. Ce qui a été fait par de très nombreuses équipes avec des résultats particulièrement intéressants. Alors aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 10 000, mais bien plus. Ceci dit, comme toujours, il y a des hypothèses. Voici une reconstruction du nombre de taches solaires faite par une équipe allemande depuis moins 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont pris le barium-10 comme indicateur d'activité solaire. Ils ont converti ça via une relation non linéaire en taches solaires. Et le nombre de taches solaires, quant à lui, il est représenté en rouge. Donc tout ce qu'on mesure, c'est ça. Tout le reste s'est reconstruit artificiellement à partir du barium-10. Et ce qu'on notera, enfin ce que les gens ont noté, c'est qu'il y a une forte variabilité avec des propriétés statistiques qui sont intéressantes, mais surtout que cette variabilité s'achève aujourd'hui par une très très forte hausse. Et l'article qui a été publié dans une revue très en vue se terminait par la conclusion « Aujourd'hui, on a un soleil qui serait particulièrement actif », ce qui a été démenti par la suite. Et ce qui montre bien à quel point il faut être prudent avec tout ceci. Parce que derrière ça, se cachent des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y a par exemple le champ magnétique terrestre qui varie et qui va avoir une incidence sur la pénétration de ces particules. Mais il y a aussi le transport de ces isotopes, étant donné que le barium-10 ou le carbone-14, quand ils vont être produits dans l'atmosphère ou ailleurs, vont être transportés par les courants, par l'eau, etc. Et donc, ça fait intervenir un grand nombre d'hypothèses dont il faut tenir compte. Donc, ceci, il faut le prendre avec prudence. Ces mêmes rayons cosmiques, par contre, c'est là que j'arrive au bout de ce que je voulais dire, ces mêmes rayons cosmiques, aujourd'hui, sont au cœur d'un grand débat, très médiatisé d'ailleurs, peut-être trop médiatisé par rapport aux implications. Et tout ça, ça remonte à une série de courbes qui a été publiée il y a quelques années par une équipe danoise qui représente la chose suivante. Vous avez ici, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, vous avez les petits triangles représentent le taux de nébulosité reconstruit à partir de données satellites météorologiques. Et en bleu, enfin, on ne voit pas très bien, la courbe ici représente le flux de rayons cosmiques. Et l'équipe qui a publié ceci a conclu, regardez, il y a une très très forte corrélation. C'est vrai que c'est frappant quand on voit ceci. Et ils sont mis à la recherche de mécanismes. Et ce qu'ils ont proposé comme mécanisme, c'est que les rayons cosmiques, quand ils arrivent dans une atmosphère saturée en eau, eh bien, vont produire exactement les mêmes phénomènes que dans une chambre à bulles utilisée dans les accélérateurs, à savoir que chaque rayon cosmique va servir de noyau de condensation et va donc provoquer des nucléations sur son passage qui peuvent ensuite, à terme, se transformer en taux de nébulosité. Et donc la conclusion, c'était, on a trouvé le mécanisme. Si le Soleil est actif, il y a moins de rayons cosmiques. S'il y a moins de rayons cosmiques, la nébulosité chute, et ainsi de suite. Et vous voyez tout de suite les conséquences qu'on peut en tirer. Le problème, c'est que ces données sont extrêmement difficiles à recueillir. J'entends par là les données de nébulosité, puisqu'il faut fusionner des grands nombres de jeux de données issus de satellites différents, et qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout clair si ceci tient bien la route, étant donné que la nébulosité n'est pas la même suivant qu'on est à basse et à haute altitude, et ainsi de suite. Alors, différents articles récents contestent fortement ces résultats. Voici un exemple qui remet un peu en cause ces résultats, peut-être pas de façon aussi très flagrante, mais il y en a d'autres qui le sont bien plus. Vous avez exactement les mêmes résultats. Alors ici, la corrélation est excellente, et puis tout à coup, ici, ça se casse la figure, tout simplement parce que les auteurs ont utilisé un autre jeu de données qu'ils ont mieux homogénéisé, etc. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, tout ça se trouve au centre d'un gros débat, avec une forte controverse, et qu'il y a une expérience qui va bientôt être menée au CERN d'ici quelques années, qui s'appelle CLOUD, qui aura justement pour objectif de voir si ces mécanismes de nucléation pourraient expliquer un impact sur le climat. Voilà, pour résumer tout ceci, j'ai regroupé ici tous les mécanismes corpusculaires qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors c'est un peu compliqué, je vais commencer par les rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques arrivent jusqu'au niveau du sol, mais l'essentiel de l'ionisation est produite entre 20 et 30 km d'altitude. Et donc c'est là qu'on s'attend éventuellement à ce qu'il y ait une nucléation, une modification de la nébulosité, et ainsi de suite. Or, ces rayons cosmiques sont modulés par le vent solaire. Donc c'est via ce mécanisme-là que le Soleil intervient. Mais il y a d'autres mécanismes. On a vu que le Soleil émet des particules de grande énergie, qui arrivent généralement plus haut, où elles vont provoquer des réactions de chimiques, destruction de l'ozone, etc. Ces particules proviennent du Soleil, mais elles sont elles aussi modulées par le vent solaire. Vous voyez que tout est couplé. Donc si vous éteignez, si vous arrêtez un des mécanismes, forcément qu'il y en a d'autres qui prennent la relève. Alors j'ai inclus aussi l'ultraviolet. Parce qu'ici, il y a toute une partie qui est totalement méconnue aujourd'hui et qui est particulièrement intéressante, d'autant plus qu'on en sait très peu. L'ultraviolet dont j'ai parlé tout à l'heure va surtout ioniser la thermosphère. Alors, sachez que dans la thermosphère et dans l'ionosphère, il y a des courants extrêmement intenses qui vont circuler au niveau de la Terre et donc qui vont redistribuer spatialement tout ceci, ce qui va créer encore une fois un couplage. Mais bon, ce que vous savez probablement aussi, c'est qu'il existe une forte différence de potentiel entre l'ionosphère et la Terre. Et c'est ça qui intervient notamment dans l'activité orageuse. Et en permanence, il y a un courant qui va de l'ionosphère jusqu'à la Terre, qui est de l'ordre de 2 picoampères par mètre carré. Ça paraît rien, mais intégrer ça sur la Terre entière, ça représente un courant qui est quand même conséquent. Alors ce courant-là, il est restauré grâce à l'activité orageuse. Jusqu'à maintenant, on connaissait bien l'activité orageuse, c'est-à-dire les courants qui s'établissaient entre les orages et le sol. Ce qu'on sait maintenant depuis une quinzaine d'années seulement, c'est qu'il existe aussi des éclairs, en quelque sorte, qui vont des orages et qui remontent jusqu'à la mésosphère, voire jusqu'à l'ionosphère. Alors, il y a toute une série de mécanismes, enfin d'observations, des phénomènes qu'on appelle des sifs, des elfes, des jets, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces mécanismes-là permettraient d'expliquer un échange d'énergie entre la basse, très basse atmosphère et la haute, très haute atmosphère. Et ça, c'est intéressant, parce que là, enfin, on est en train de passer à travers les couches, les pelures d'oignons. On est en train de couper les différentes couches. Et ça, ça intéresse énormément les gens, même si ça pose des problèmes, puisque ça oblige différentes communautés scientifiques à se mettre autour de la même table. Alors, ces jets-là, qui sont particulièrement énergétiques, ça peut être des millions de joules, vont provoquer une ionisation qui va modifier les conditions du milieu et qui pourrait avoir un impact sur le climat aussi, étant donné que la nébulosité est modulée, etc. Vous imaginez toute la chaîne de mécanismes. Toujours est-il qu'on en sait très peu. D'après certains auteurs, ce n'est pas assez important. Il manquerait plusieurs ordres de grandeur pour expliquer un impact sur le climat, mais ça reste un mécanisme à scruter. Pour le bilan de tout ceci, donc c'est le rayon cosmique qui reste un mécanisme controversé. Une des raisons, c'est que le rayon cosmique devrait surtout agir à haute latitude et à haute altitude. Et ce n'est pas le cas. C'est un peu le contraire qui se passe. Donc là, il y a des questions qui restent ouvertes. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est tout le rôle du circuit électrique. Mais dans tout ceci, il faut faire évidemment très attention, puisque corrélation n'est pas égale à causalité. Alors, pour conclure, quel est l'impact du Soleil dans tout ceci ? Eh bien, je pourrais vous renvoyer aux chiffres de l'IPCC, qui représentent un consensus, mais consensus ne veut pas dire que tout le monde s'y sont représentés, et donc forcément que les chiffres vont évoluer au cours des prochaines années. Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre les problèmes qu'il y a derrière. Premier problème, nous n'avons pas assez de recul. Et donc, tout ce qui est dit repose sur des extrapolations. Il faut être donc extrêmement prudent. Deuxième chose, le système est couplé. Autrement dit, très difficile de séparer la cause de l'effet. Tout est modulé par un cycle de 11 ans. C'est l'horreur. Si on aborde ça sous l'angle d'un système dynamique, c'est l'horreur. Mais bon, on a l'habitude. Troisième chose, le système est non linéaire. Ce qui veut dire qu'un petit effet peut avoir un petit mécanisme peut avoir un effet de levier. Et on peut aussi avoir affaire à des effets de seuil où un mécanisme n'a aucun effet jusqu'au moment où tout à coup on dépasse un seuil. Le Soleil, tout part du Soleil, sauf les rayons cosmiques. Les paramètres orbitaux dont je n'ai pas parlé, pour une raison simple, c'est que les paramètres orbitaux, c'est un effet purement géométrique qui va avoir un effet surtout sur le rayonnement électromagnétique, mais qui est quand même important puisque c'est la cause première des épisodes glaciaires. Et enfin, les régions où ça va avoir un effet. Alors, ce qui me paraît peut-être le plus important, c'est de poser, de voir quels sont les défis. Alors les questions qui se posent, je commencerai par les rayons cosmiques. Peut-être le plus controversé. Quel est l'impact des rayons cosmiques ? On n'en sait pas trop. Beaucoup de gens pensent que l'impact est faible, même si le mécanisme physique a l'air attrayant. Je suis pas sûr que l'expérience au CERN apportera une réponse définitive, mais il faut voir. Deuxième chose, le circuit électrique, dont j'ai parlé tout à la fin. Beaucoup d'inconnus. Ceci dit, il y a un satellite du CNES qui s'appelle Taranis, qui va être lancé dans 2 ans, 3 ans. Et qui aura pour objectif justement d'étudier ces mécanismes-là. Donc on espère trouver des réponses à ce moment-là. Au niveau de l'irradiance, eh bien c'est là qu'étaient dirigés tous les regards jusqu'à maintenant. L'irradiance totale, j'entends par là la partie visible et infrarouge proche du spectre, on ne comprend pas comment une si faible variation pourrait expliquer la modulation du climat, à moins qu'on trouve demain un mécanisme qui permet d'amplifier tout ceci. Donc l'impact reste probablement limité, même s'il est certain. Quant à l'ultraviolet, eh bien là, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un mécanisme de levier via certains des mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourrait agir sur la haute, à condition de trouver un couplage entre la haute et la basse atmosphère. Tout le problème consiste à trouver le couplage en termes physiques et en termes communautaires, entre communautés scientifiques. Et enfin, je terminerai avec les deux autres. Les particules qui arrivent à ce niveau-là et à ce niveau-là, eh bien, l'impact est probablement faible, tout simplement parce que c'est des mécanismes qui se passent bien trop haut et qui sont remis à zéro. Il y a un reset qui se produit toutes les 24 heures et on ne pense pas que ceci puisse avoir une incidence importante. Voilà, je vous remercie de votre attention.
C'était Thierry Dudoc de Witte, professeur au laboratoire physique et chimie de l'environnement à l'Université d'Orléans, conférence au bureau des longitudes à l'Institut de France en septembre 2008 sur le rôle du soleil dans le changement climatique. Les conférences du bureau des longitudes sont ouvertes au public. Elles se déroulent à l'Institut de France à Paris, une fois par mois. Pour connaître la programmation des prochaines conférences, vous pouvez vous connecter à leur site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.